L'eau profonde, 2. La nuit tombait, et Madame de Lanode était rentrée chez elle depuis plusieurs heures, qu'à travers les multiples occupations de cette fin d'après-midi, écrire des billets, recevoir quelques visites d'intimes, vaquer à sa toilette du soir, elle n'avait pas cessé de se poser cette question, sans trouver la réponse. Oui, comment ? De telles enquêtes sont très malaisées à un homme qui a pourtant ce privilège de se glisser partout presque inaperçu. Elles sont quasiment impossibles à une femme, jeune, jolie et un peu élégante. Songez donc, il lui est interdit de sortir de chez elle habillée dans des toilettes qui ne soient pas de son rang. Cette seule nécessité limite son champ d'action d'une manière terriblement étroite. Restent les agences privées, dont les prospectus, avec promesse de discrétion et de célérité, arrivent de temps à autre, par les soins de la poste, aux diverses personnes qui figurent, à un titre quelconque, dans un des annuaires du monde parisien, grand ou petit. Jeanne connaissait trop le danger de pareils procédés, grâce aux propos des hommes de cercle, parmi lesquels elle vivait depuis 10 ans. Pour s'exposer de gaieté de cœur à des risques certains d'exploitation, peut-être de chantage. Révéler à des policiers véreux son passionné désir de savoir le secret de sa cousine, autant les mettre sur la voie d'un autre secret, le sien. Ces obstacles, dressés devant la curiosité du monde, expliquent comment tant d'histoires devinées et colportées sous le manteau demeurent toujours invérifiées, partant niable. Peu de personnes prennent, à les connaître dans leurs détails exacts, un intérêt assez grand pour passer outre à tant de difficultés. La plupart restent dans une incertitude qui leur permet de rapporter pêle-mêle de justes indices et d'infâmes calomnies, en soulageant leur conscience par les phrases classiques « Après tout, ce n'est peut-être pas vrai. S'il fallait croire tout ce que l'on raconte !» Moi, je n'en ai rien vu, et on est si méchant. Formule pire dans leur fausse indulgence que les médisances qu'elles ont la prétention d'atténuer. Elles attestent trop ce qu'il y a de léger dans les cruautés de salon, et comme l'indifférence s'y mélange à la férocité. Mais ce n'était pas en face d'un méchant propos que se trouvait Madame de Lanode. C'était devant un fait. Et gros de tant de conséquences. Comment l'élucider, à elle seule, sans se hasarder dans aucune compromission dangereuse, quand elle avait à lutter contre une finesse de femme si avisée qu'un incroyable concours de circonstances avait seul mis sa plus proche parente, presque sa sœur, sur cette piste si vague, si perdue déjà. Cette recherche représentait une tâche à décourager toutes les patiences, mais pas celle d'une envieuse. Lorsqu'un peu avant 8 heures la petite baronne sortit de chez elle pour aller dîner en ville chez des amis communs, les Guy de Salièvre, elle devait justement y retrouver Valentine. Sa résolution de tirer au clair l'énigme soudain surgie à son horizon était aussi irrévocable qu'un serment corse, et sa première action déjà arrêtée. Cette ardeur d'une chasse commençante, la plus forte des sensations pour les nerfs d'une Parisienne de sa classe, prisonnière de si monotones habitudes, donnait à sa beauté, d'ordinaire un peu maussade, une animation singulière. Ses yeux bruns, auxquels manquait souvent le regard, avaient de l'éclat. Son teint, habituellement sans fraîcheur, avait du coloris. Toute sa personne, volontiers tendue et sèche, de la vitalité et du mouvement. Son impatience de revoir sa cousine l'avait fait se rendre un peu trop tôt dans la maison où elle dînait, si bien que cette nervosité était portée à son plus haut degré quand Madame de Chaligny, qui par hasard arriva la dernière, entra, suivie de son mari, dans le hall, où les convives, 14 en comptant les nouveaux venus, étaient réunis. La marquise avait cette physionomie de douceur et de réserve qu'elle savait garder même dans l'apparat d'une grande toilette, qui mettait à nu, comme celle-ci, ses fines épaules pleines, ses jolis bras à peine duvetés, sa nuque délicate et robuste, toute la grâce épanouie de sa 30e année. C'était la tendresse que cette charmante tête aux cheveux blonds, éclairée par ses prunelles d'un bleu si caressant, et c'était la pudeur et la pureté. Elle portait ce soir-là une toilette de forme Louis XIII, d'une tonalité rose un peu éteinte, avec des incrustations de guipure ancienne, des nœuds de satin et des ferrets de diamants. La manière dont elle se coiffait, en deux épais bandeaux d'où s'échappaient sur le front de petites boucles, s'harmonisait à cette toilette. Elle rappelait ses portraits du premier tiers du XVIIe siècle, qui réalisent si complètement le type exquis de la Française d'autrefois, par un alliage unique de finesse et de distinction, de féminité et de raison, de gentillesse et d'honnêteté. Est-elle délicieuse, cette petite Chaligny ? Dit quelqu'un derrière Madame de Lanode. Et faut-il que Chaligny soit un fou pour ne pas le voir, puisqu'il paraît qu'il court ? C'était le duc d'Arcole qu'il parlait ainsi, en s'adressant à son voisin, lequel se trouvait être un des frères Mosé, le comte Abel, l'un des Parisiens les plus avisés du petit cercle, aussi avisé que Lucien d'Arcole est étourdi. L'excuse de ce brave colonel au nom glorieux est que, même en permission, il ne pense qu'à son régiment. Il n'avait pas pris garde que la maîtresse de Chaligny, et qu'il savait elle, était devant lui. Un léger coup de coude que lui donna Mosé l'avertit soudain de sa gaffe. Jeanne, qui les voyait l'un et l'autre dans un coin de sa glace, put remarquer, et ce geste pourtant bien dissimulé de Mosé, et que d'Arcole rougissait un peu. De constater à de très petits indices comme cela que son aventure avec le mari de sa cousine était soupçonnée, l'irritait toujours. Il lui fut presque intolérable à cet instant que cet éloge de cette cousine enveloppât une expression, même contenue, du blâme dont elle se sentait frappée par le monde. Elle aurait voulu pouvoir crier à Mosé, à d'Arcole, à toutes les personnes présentes, qui toutes, elle en était sûre, avaient entendu parler de sa faute et en avaient parlé. « Oui, Chaligny est mon amant, c'est vrai. Il trahit sa femme avec moi. Mais demandez-lui donc, à elle, vers quel rendez-vous elle allait aujourd'hui, en fiacre, à 3 heures. » Elle aurait voulu la crier aussi, cette phrase vengeresse, à Chaligny, qui s'avançait vers elle maintenant pour la saluer, avec cet arrière-fond de gêne dans ses prunelles qu'elle y devinait si souvent lorsqu'ils étaient en public. Elle n'avait jamais pu s'habituer à des remords, trop insultants pour leur liaison, et contre lesquels ses caresses seules étaient souveraines. Le temps qu'elle les donnait à cet amant si enivrable à la fois et si insaisissable. Elle aurait voulu la crier aussi, la phrase sans réplique, à Valentine, dont la sérénité douce contrastait vraiment d'une manière par trop impudente avec son action de la journée, si cette action était coupable. Mais n'était-ce pas un aveu de culpabilité que sa réponse à la question insidieuse que lui posa presque aussitôt Madame de Lanode ? Premier pas sur le chemin d'une enquête qui, de perfide, devait si vite devenir dénonciatrice. « J'avais espéré un peu que tu changerais d'idée ? » avait-elle commencé. « Et que tu me ferais signe ce matin pour que nous sortions quand même ensemble. J'ai presque attendu un mot de toi. » « Je te prendrai demain, si tu veux, » repartit Valentine. « Aujourd'hui, je n'ai pas eu une minute. J'avais trop de choses en retard. La semaine prochaine, nous chassons à Pont-sur-Yvonne. »«
Je comprends. Tu mets tes visites au courant. Où es-tu donc allée ?»«
Oh, dans 10 endroits. Et il n'y en a que 2 où j'ai laissé des cartes. Tout mon monde y était, et pense que ce sont presque tous des étrangers. » C'est leur saison. On se demande ce qu'ils viennent faire à Paris, si c'est pour ne pas quitter leur hôtel.
On annonçait le dîner, comme la jeune femme résumait ainsi son emploi d'après-midi, Et quel joli sourire, si enfantin, si frais, qu'il semblait impossible qu'un mensonge pût l'accompagner. Les deux cousines se séparèrent. Madame de Sarliève, en sa qualité de maîtresse de maison, aurait cru manquer au devoir de l'hospitalité envers deux personnes, soupçonnées d'un bonheur clandestin, quand elle les avait chez elle, si elle ne leur avait pas donné une occasion de passer une heure de plus à côté l'une de l'autre. Aussi avait-elle réservé à Chaligny le plaisir de conduire Madame de La Node à table très naturellement. C'est le quotidien procédé à Paris des femmes légères, quand elles veulent s'assurer la réciprocité, et des femmes honnêtes, quand elles veulent recruter des assidus à leur salon. Elles se trompent quelquefois en croyant ainsi être agréables à leurs convives. Il arrive que ces complaisances retardent et forcent des amants brouillés à subir le plus douloureux voisinage. Il arrive aussi qu'elles froissent certaines sensibilités ombrageuses, comme une indélicatesse. C'est trop leur montrer que l'on reconnaît les dessous de leur vie. Chaligny appartenait à ce groupe des amoureux susceptibles. 20 fois, Jeanne l'avait vue, à des dîners pareils, s'asseoir auprès d'elle de cette même façon morose, avec les gestes énervés d'un homme qui souffre d'une situation fausse. Et 20 fois, elle lui avait dit, pour le reprendre et se prouver son empire, de ces phrases d'aguichage tendre, comme celles qu'elle lui murmura de la pointe de ses lèvres en s'asseyant à table dans le premier brouhaha de l'installation. « C'est un bonheur pour moi de vous avoir là pour un peu de temps. Nous ne nous sommes pas parlé vraiment de la semaine. »«
Vous savez bien que ce n'est pas ma faute, » répondit-il. « J'ai chassé tous les jours. »
« Et je sais bien aussi que cela ne vous prive guère, » fit-elle coquettement. « Vous aviez l'air si mécontent lorsqu'Emmeline vous a demandé de me conduire à table. »«
Je vous respecte, » répliqua-t-il, « et je ne pouvais pas ne pas être mécontent. Nous ne dînons plus jamais dehors sans que nous soyons voisins. Je sais trop ce que cela signifie. »«
Et si cela m'est égal à moi ?» insinua-t-elle.
« Non, soyez franc, Norbert, ce n'est pas moi qui vous préoccupe. »«
Et qui donc ?» Jeanne lança un regard du côté de Valentine d'une signification si claire que Chaligny répondit vivement
« Et quand je tiendrais à la ménager, elle aussi, quand je voudrais lui éviter une douleur ?»«
Vous croyez donc qu'elle tient à vous tant que cela ?» répliqua la maîtresse.
« Mon pauvre ami !»
Une expression singulière passa dans ses prunelles qu'elle n'y avait jamais eue avant ce jour, et elle laissa tomber un
« En êtes-vous bien sûr ?»
qu'elle accompagna d'un rire haut et non moins singulier. Puis elle se tourna vers son autre voisin, lequel lui demanda
« Que vous raconte donc Chaligny, madame, qui vous amuse tant ?»«
Oh, rien, » fit-elle, « une histoire de mari, elles sont toujours drôles. » Et elle se remit à rire, mais plus gaiement, de l'énormité de son insolence. Elle n'avait pensé qu'à l'effet à produire sur Chaligny, et le voisin à qui elle s'adressait en ces termes n'était autre que Paul Morène, le mari le plus mari de toute leur société. Puis que cela, n'est-il pas de notoriété publique que le luxe de sa femme a été payé d'abord par le vieux des Forges, puis par un autre des Mosées, le comte Abraham. Mais Morène ne s'est jamais plus douté des galanteries vénales de sa Suzanne que des autres, de son aventure avec le beau Casal, par exemple, ou de sa liaison avec le poète René Vinci. L'héritage inespéré d'une demoiselle de Bois-Dauphin, petite cousine éloignée de Suzanne Morène, est venu apporter 2 millions au ménage, juste au moment où les Desforges et les Mosées allaient commencer à faire défaut. L'âge arrivait avec son fatal cortège, les points d'or dans le sourire, les fausses nattes dans le chignon et les corsets réparateurs. Paul Morène avait la manie de raconter cette fortune subite et force détails à l'appui. Il ajoutait régulièrement «
Voyez ce que c'est que d'avoir une femme entendue,
À peine nous sommes-nous aperçus que nous avions 60 000 livres de rente de plus, tant elle tenait bien sa maison. Aussi, pas un nuage ne passa-t-il sur le visage ouvert de l'excellent homme, lorsque Madame de la Node eut manqué si gravement devant lui au classique proverbe « Il ne faut pas parler de corde ». Et la suite. Au contraire, il insista. « Si c'est un potin, vous allez me le dire, que je le répète à Suzanne. Elle n'a pas pu venir à cause d'une migraine. Quand je rentre, je lui raconte tout. » Un nouveau coup d'œil à Chaligny, où Jeanne n'eut pas besoin d'empreindre une nouvelle ironie. Il avait entendu la phrase de Morène, et elle commençait avec celui-ci, sous le prétexte de se débattre contre sa question, un de ces caquetages de grands dîners parisiens qui justifie l'éloignement des hommes supérieurs pour le monde. L'antithèse est trop choquante entre ces pauvretés et les splendeurs du décor. Cette vaste salle à manger de l'hôtel Sarliève montrait sur ses hauts murs, entièrement tendus, de merveilleuses tapisseries d'après Boucher et qui s'accordaient à la richesse de son ameublement Louis XVI. Tous les détails étaient exquis, depuis le délicat, surtout de Saxe, parmi l'éclat plus vif de l'argenterie et des cristaux, jusqu'au choix des fleurs, d'une nuance attendrie. L'ensemble réalisait un rêve vivant d'opulence fine. Les 6 femmes assises à cette table, entre les 8 habits noirs, étaient toutes jolies, et la plus âgée, Emmeline de Sarliève, n'avait pas 37 ans. C'était, outre l'élégante Jeanne et la gracieuse Valentine, cette froide mais si fine Madame Pierre de Bonnivet et ces 2 greuses vivantes qui sont l'exquise Madame de Moniaux et son amie, la jeune Madame de Croix-Firmin. Et si un photographe eût recueilli les phrases échangées entre ces princesses de la mode et les hommes qui les encadraient, c'eût été une misère d'esprit et d'idées à en pleurer. Mais non, ce qui se dit dans le monde est si peu l'image de la pensée. La vérité de l'existence parisienne ne réside pas dans les mots, elle est dans des situations auxquelles ces vaines palabres, pour prendre l'amusante locution provençale, servent de commentaires indifférents. Entre ces 14 personnes, plusieurs étaient peut-être, vis-à-vis les unes des autres, dans des rapports aussi compliqués que ceux de Jeanne avec le ménage Chaligny. Quand des intérêts de cet ordre vous occupent l'âme, la causerie n'est plus qu'un alibi où la suprême affaire est de ne rien trahir du drame intérieur. Pour Madame de la Node, c'était bien un drame que de suivre sur la physionomie de son amant le va-et-vient d'une pensée que son insinuation perfide de tout à l'heure avait aussitôt troublée. Pour la première fois, elle avait osé, non pas critiquer Valentine auprès de son mari, elle s'y était hasardée souvent, mais l'attaquer presque directement dans son rôle d'épouse légitime. Cette « En êtes-vous bien sûr ?» lui avait échappé sans qu'elle calculât la portée, comme un écho des phrases qu'elle s'était prononcées tout bas après la découverte étonnante de cet après-midi. Son instinct de maîtresse avait touché Chaligny, juste au point où un mot pouvait lui faire du mal. Elle le connaissait si bien. La physionomie tourmentée et changeante de cet homme l'indiquait. Le trait principal de son caractère était l'incertitude. C'était un garçon rongé de timidité, avec des attitudes volontiers cassantes. Cette passion, car c'en est une, au sens profond du terme, qu'une timidité véritable, déconcerte la plus subtile analyse. À demi physique, à demi morale, elle tient à cette fibre la plus intime de l'être, où se consomme l'union de nos 2 natures, l'animal et l'autre. Son effet le plus constant est une vacillation de l'intelligence à la foi et de la volonté, l'une ne sachant pas affirmer avec certitude, l'autre ne sachant pas agir avec décision. Chose étrange. Cette défiance de soi joue parfois la supériorité.
Les succès de Chaligny dans ses affaires en dérivaient. Il s'était appliqué à rester toujours derrière ceux qu'il voyait réussir, avec un bon sens que les résultats proclamaient une force. Ce n'était en réalité qu'une faiblesse. Il avait été le même dans le mariage. Faible, toujours faible, ne se livrant pas, n'osant pas se livrer, paralysé par sa femme et la paralysant, elle si sensible aussi. Il n'y a pas de disposition plus propice au malentendu de l'existence commune que l'excès d'impressionnabilité. Quand la cohabitation quotidienne n'a pas raison de la timidité, elle l'exaspère. Cette espèce d'effarouchement moral, encore aggravé par la réserve de Valentine, que ce mari gauche et susceptible prenait pour de la froideur, avait empêché qu'il n'éprouvât avec sa femme cette sensation de l'amour partagé, sans laquelle aucune union n'est complète. C'était par les appétits de sensualité, demeurés insatisfaits dans la vie conjugale, que Jeanne l'avait attiré et qu'elle le retenait. Elle le savait, et elle savait aussi qu'en gardant à sa femme une estime inentamée, cet hésitant restait vis-à-vis de son propre ménage à l'état d'incertitude. Il ne comprenait pas Valentine tout entière, et par instants il en avait peur. Jeanne en eut la preuve, d'abord durant le dîner qu'il passa dans le mutisme d'un homme qu'une idée préoccupe, ne lui parlant à elle et ne parlant à son autre voisine, qui était la peu indulgente madame de Bonnivet, que juste autant qu'il fallait pour ne pas paraître grossier. Puis, lorsque, levé de table, il put enfin se trouver seul à seul avec Jeanne dans un angle du salon, ce fut par une allusion à l'énigmatique petite phrase qu'il reprit l'entretien interrompu dès le premier service. « Vous avez été bien peu gracieuse avec moi, » lui dit-il de cette voix rentrée qui ne veut pas qu'une seule syllabe arrive à d'autres oreilles et que tant d'amants ont la naïveté d'adopter pour leur aparté du monde. « Oui, bien peu. Je ne m'y attendais guère, d'une amie qui regardait comme un bonheur de passer une heure ensemble. Est-ce de m'avoir peinée que vous m'en voulez ?»«
Moi ? » fit-elle. « Je vous ai peinée ? Et comment ?»«
Vous le demandez ?» répondit-il. « Comment ? » insista-t-il. « Mais vous savez que je souffre de nos relations avec Valentine, et l'on croirait que vous faites exprès de me rendre ces relations plus difficiles en m'inquiétant à leur sujet. Qu'avez-vous prétendu quand vous m'avez dit à propos du chagrin que j'appréhendais pour elle, si jamais elle soupçonnait nos rapports ? En êtes-vous bien sûr ? Et le reste ?
« Mais je n'ai rien prétendu du tout, » répondit-elle.
« Votre terreur de troubler le repos de cette chère Valentine vous égare. Vous me forcez de vous répéter encore une fois qu'il eût été plus sage d'y penser auparavant. Oui, plus sage et plus charitable pour moi. J'ai voulu dire tout simplement qu'elle n'est pas sotte et qu'elle sait probablement la vérité sur nos sentiments. » Ce qui prouve que son amitié pour vous n'est pas ce que votre fatuité imagine, et qu'elle ne tient peut-être pas à vous autant que vous croyez. Voilà tout. Il y a longtemps que je vous le répète, et que votre terreur n'est qu'une chimère. Nos sentiments, ajouta-t-elle. C'est les miens que je devrais dire. Vous n'avez, vous, d'émotion que pour elle. Je ne le supporterai pas toujours. Elle s'éventait en lançant cette menace de rupture avec un sourire de défi. Les rapides allées et venues des blanches et souples plumes d'autruche faisaient flotter autour d'elle un subtil effluve du parfum dont sa lingerie la plus secrète était pénétrée. Elle se sentait en beauté et elle hochait sa petite tête d'un geste qui dessinait mieux la blanche attache de son cou. Ses yeux bruns clignaient à demi, et leur regard provoquant allait chercher au fond des prunelles de Chaligny la pensée fuyante. Cet homme, passionné et complexe, qui pendant le dîner n'avait été préoccupé que de sa femme, et qui si souvent désirait d'en finir avec une liaison, criminelle pour sa conscience, éprouva soudain, comme si souvent encore, un de ces passages de désir qui jettent leur victime dans un désarroi de toutes les énergies raisonnables. Il répondit d'une voix plus basse,
« Tu sais trop bien que je n'aime que toi, mais c'est vrai que nous nous voyons trop peu en ce moment, et alors je me fais des idées noires. Cette semaine, je dois encore aller à Pont-sur-Yonne pour 3 jours. Veux-tu venir chez nous avant? Veux-tu demain ?»«
Oui, » dit-elle à voix basse aussi, et en changeant tout à coup de ton, comme si l'émotion contagieuse de son amant la gagnait. « À 4 heures, je vais me dégager de Valentine, » ajouta-t-elle à haute voix, en prononçant cette fin de phrase avec assez de force, pour que Madame de Chaligny, qui était assise à quelques pas d'eux, sans que son mari l'eût remarqué, retourna la tête, et, désireuse de se débarrasser d'un pénible entretien avec le maître du logis, le pesant Sarliève, elle interpella sa cousine. « Vous parlez de Valentine ? » demanda-t-elle. « Qu'en disiez-vous ? »
« Beaucoup de mal, » répondit l'impudique Jeanne.
Elle vint s'asseoir à côté de celle qu'elle trahissait abominablement depuis 1 année et qu'elle se préparait à perdre sans retour quand elle posséderait tout le secret dont elle avait seulement surpris des indices. Mais quels indices ! Et elle se pencha, comme pour examiner un des bracelets que sa rivale portait au bras, de façon que leurs 2 têtes fussent tout auprès l'une de l'autre. Et alors elle regarda Chaligny. Elle aimait à se prouver son pouvoir sur lui, en le forçant d'assister à des scènes d'intimité qui le dégradaient. Elle devinait qu'en ces moments-là, il se méprisait. Elle croyait, et non sans logique, qu'elle désarmait ainsi sa résistance. On est très faible quand on a cessé de s'estimer, et il lui fallait cet homme faible, plus faible encore, pour des combinaisons qu'elle avait toujours entrevues comme si lointaines, comme impossibles. Voici que l'événement de cet après-midi, corroboré par le mensonge indiscutable de Madame de Chaligny ce soir, les précisait pour la première fois. 4. Certitude. Ces combinaisons, ou plus justement, 7 combinaisons, c'était le divorce de Chaligny. Avec la nature suggestionnable que Jeanne lui connaissait, comment n'eût-elle pas été conduite presque aussitôt sur cette route? Le hasard venait de placer dans ses mains une telle arme. Comment n'être pas tenté de l'utiliser? On a vu déjà que parmi les rêves qui hantaient ces amertumes de demi-déclassés, le plus chimérique, mais aussi le plus familier, était celui d'un nouveau mariage. Pour cela, il était nécessaire qu'elle fût libre. On a vu encore qu'elle comptait pour cette liberté sur l'initiative de son mari, et d'après quel article du code, plus ou moins exactement interprété. Mais elle s'était dit souvent qu'au besoin, elle prendrait elle-même cette initiative, si jamais elle tenait à sa portée l'occasion de ce second mariage. Cette occasion, la destinée ne semblait-elle pas la lui offrir? Elle était la maîtresse de Chaligny. Elle avait le droit, d'après le code féminin, de prétendre qu'il l'avait séduite, n'ayant jamais eu d'autre amant que lui, et qu'il lui devait de l'épouser, si jamais elle et lui devenaient libres. Libre, ce mot, toujours le même, l'obsédait comme un refrain d'espérance. Libre, elle pouvait l'être avec une démarche judiciaire. Libre, Chaligny pouvait l'être, si vraiment sa femme le trompait et qu'il en tint la preuve. Par qui l'aurait-il, cette preuve? Serait-ce par elle, Jeanne? La tentation de dénoncer le secret surpris avait effleuré l'envieuse, on se le rappelle, dès les premières minutes. Elle l'avait repoussée. Et puis, elle y avait tout de même cédé un peu. Témoin la petite question énigmatique, scélératement jetée dès le début du dîner chez les Sarliève. Le sursaut d'honneur qui lui avait fait ensuite rattraper ses propres paroles, en les interprétant dans un sens anodin, durerait-il? Elle l'eût affirmé avec la plus sincère énergie, si on l'eût interrogée dans la voiture qui la ramenait de cette soirée. sur une promesse de rendez-vous avec le mari de sa cousine. Mais déjà, couchée dans son lit et repassant en esprit tant de menus incidents riches de conséquences, elle en était à s'objecter qu'après tout, plusieurs voies pouvaient mener à la vérité. Pourquoi le hasard qu'il avait mis, elle, sur la piste de l'intrigue de Valentine, ne se reproduirait-elle pas pour un autre? Pourquoi cet autre ne serait-il pas le mari? Une femme qui cache une aventure dans sa vie commet des imprudences. C'en avait été une que ce changement de voiture cet après-midi dans ces conditions. Une autre que cette réponse sur son emploi de journée qui équivalait au pire aveu. Que Norbert découvre tout par lui-même, je n'aurai rien à me reprocher. Et Valentine ne devra pas se plaindre si je prends une place qui ne sera plus la sienne. Mais qui a-t-il à découvrir? A-t-elle un amant? Qui est-ce? Elle quitte Paris cette semaine, je ne saurai rien. Tant mieux, elle se défiera moins de moi. Ce sera pour son retour. En tout cas, demain, je ne laisserai pas Norbert me prononcer seulement son nom. Ma dignité l'exige. Non, il ne saura rien par moi. Si la dangereuse et féline créature était descendue jusqu'au fond de cette résolution, sur laquelle elle s'endormit, en s'en estimant, elle se serait rendue compte qu'il y entrait beaucoup de prudence et très peu de magnanimité. Communiquer au mari des indices si incomplets, n'était-ce pas avertir la femme? Elle n'eut donc pas grand mérite à tenir la parole qu'elle s'était donnée, le lendemain, dans ce rendez-vous à l'appartement clandestin que son amant avait désigné par ce terme équivoque de « chez nous ». Il ne se douta pas que l'ambition d'appeler ainsi le magnifique hôtel de la rue de Varennes était pour beaucoup dans la grâce enivrante que sa maîtresse sut déployer pour lui cet après-midi-là. Elle voulait que la griserie de ses caresses le suivît à Pont-sur-Yonne, auprès de Valentine, et empêcha entre eux cette reprise d'intimité conjugale, crainte permanente de la maîtresse d'un homme marié. Jeanne en avait été exempte jusqu'ici, tant qu'elle avait considéré Valentine comme une femme froide, de tout point étrangère aux choses de l'amour. Son opinion venait de changer brusquement. Les conséquences de cette volte-face dans son appréciation sur le caractère de sa cousine s'approfondirent durant les quelques jours de séparation qui suivirent ce rendez-vous. Pourtant, elle ne put qu'essayer de plusieurs côtés, en interrogeant adroitement tantôt l'un, tantôt l'autre, la plus infructueuse des investigations sur le mystère dont elle avait surpris la trace. Associait-on le nom d'un personnage quelconque de leur société à celui de Madame de Chaligny, et s'en taisait-on devant elle, ceci parce qu'elle était une proche parente, cela parce qu'elle était une rivale de la jolie marquise. Elle voulut le savoir à tout prix, et elle ne parvint à recueillir d'autres échos que ceux des éloges, qu'elle connaissait trop pour en avoir déjà tant souffert. Passant elle-même en revue les hôtes habituels du salon de la rue de Varennes, elle n'arriva pas davantage à fixer son soupçon sur un seul. Tous, sans une exception, depuis les séducteurs sur le retour, comme Casal, comme Varde, jusqu'aux jeunes beaux de la nouvelle génération, un Pierre Dessène, un Maxime de Portille, observaient, à l'égard de Madame de Chaligny, cette attitude de respect involontaire, qui ne s'imite pas, qui ne se joue pas. Elle émane de tout l'être, et se traduit par des façons de regarder une femme, de s'en approcher, de lui parler, à laquelle une autre femme se trompe, d'autant moins que les mêmes individus l'abordent, elle, avec d'autres manières. Imperceptible nuance, mais toute lassante. Non. Il n'y avait pas dans l'entourage entier de Valentine un seul homme dont Jeanne pût se dire « Mais c'est lui !» avec une ombre de vraisemblance. Quand elle se retrouva en face des Chaligny, à leur retour de Pont-sur-Yonne, elle n'était donc pas plus renseignée sur le secret de sa rivale qu'à la seconde où elle avait vu les ailes grises du chapeau disparaître dans le fiacre, au milieu de la rue Saint-Honoré. Et la gêne de son amant à les revoir, toutes deux, s'embrassant, se tutoyant, se prodiguant des mots d'amitié, n'avait pas non plus diminué. Un seul point s'était modifié. Cette semaine de solitude et de méditation avait définitivement entamé, sinon détruit, le scrupule qui avait rendu odieuse à Jeanne l'idée d'une dénonciation au mari. Les âcres rancœurs de son amour-propre, ulcérées tant d'années par une comparaison toujours renouvelée, toujours blessante, s'étaient ramassées dans un sentiment qu'elle aurait formulé ainsi de la sorte, si elle avait eu tout le courage de ses vrais désirs. Elle ne se prononçait nettement que la dernière phrase. « Tant pis pour elle si je prends ma revanche. J'y ai droit après qu'elle a eu de telles chances dans la vie, et moi rien. Il y a une justice tout de même. » La plus hideuse des scélératesses qui puissent se commettre entre femmes était déjà enveloppée dans cet appel à l'équité. Qu'il s'agisse de l'ordre social ou de l'ordre sentimental, ce mot de justice, si solennel à prononcer, ne sert le plus souvent qu'à nous absoudre devant nos propres yeux de notre haine pour le bonheur d'autrui. Il est toujours opportun de répéter cette vérité élémentaire à une époque qui excelle à parer de phraséologies idéalistes les plus abjectes passions et les moins généreuses. Cette petite femme du monde, d'un si pervers égoïsme, ne raisonnait pas pour son propre compte autrement que les fauteurs de révolution. Son sophisme était seulement moins dangereux, quoique son appétit de nuire fût aussi fort. Si les volontés très décidées réussissent le plus souvent dans leurs entreprises, c'est qu'elles supposent une tension fixe de la pensée à la guise du moindre événement et qui ne perd aucune occasion d'agir. Après avoir discuté mentalement les divers procédés d'espionnage possibles, Jeanne s'arrêta au plus simple. C'était aussi celui qui, tôt ou tard, donnerait immanquablement le résultat passionné désiré. Il fallait profiter du voisinage et de l'intimité pour surprendre Valentine chez elle, à toutes les heures. Sa perspicacité de femme saurait bien découvrir, une fois, quelques signes qui lui permit d'essayer une action précise. Sa propre expérience lui avait appris qu'une liaison qui dure s'organise naturellement en habitude d'une régularité quasi bourgeoise. La plupart des amants se fixent des rendez-vous presque exactement périodiques, obligés qu'ils sont d'accommoder leur bonheur clandestin au train correct de leur existence avouée. Quand, au contraire, ces rendez-vous sont irréguliers, la raison en vient toujours de la maîtresse. C'est que ces instants de liberté sont eux-mêmes irrégulièrement placés. Et cette fois, comme cette liberté dépend de la présence ou de l'absence du mari, la vie de ce mari donne le secret de celle de la femme. Celle dont le maître et seigneur chasse plusieurs jours par semaine choisira plutôt une de ces après-midi où elle se croit sûre de n'être pas surveillée. Ce n'était pas le cas ici. Valentine surveillée, elle l'était si peu. Elle aurait pu être imprudente à n'importe quelle heure, en pleine sécurité. Mais, pratiquant la dissimulation à la profondeur qu'une intrigue supposait, de sa part, avec ses attitudes, elle devait être prudente, en tout état de cause et par principe. Les vrais hypocrites sont ainsi. Un de leurs traits habituels est l'égalité absolue d'humeur et de façon. Jamais Madame de Chaligny ne condamnait sa porte, comme quelqu'un qui n'a rien à dissimuler dans son existence. Jeanne compta aussitôt sur cette particularité. Elle se fit ce raisonnement simple, mais fort. Parmi les indices qu'il avait décidés, quand elle allait aborder sa cousine dans le grand magasin, à se retenir et à la suivre de loin, le plus décisif avait été un certain caractère de toilette. Elle avait cru y discerner une intention de passer inaperçue. Elle se dit que le jour où Valentine se hasarderait de nouveau à cette mystérieuse expédition, elle s'habillerait de nouveau dès son lever, sinon avec la même robe, à coup sûr dans les mêmes nuances d'effacement. Une autre semaine ne s'était pas écoulée depuis le retour des Chalini, et elle éprouvait que son génie d'induction féminine lui avait suggéré la bonne méthode. Il n'y fallait que la patience. L'envie, qui est par nature une passion silencieuse et nourrie de longues impressions, en manque rarement. Jeanne n'eut même pas à user de la sienne. Elle était donc venue rue de Varennes ce matin-là, qui était un lundi, vers les 11 heures, soi-disant pour embrasser la chère cousine, avant le déjeuner, et combiner avec elle leur course de l'après-midi. Il y avait exactement 13 jours qu'à la même heure, et cette fois-là bien par hasard, elle avait posé à Valentine la même question. « Veux-tu que nous sortions ensemble ?» Et que celle-ci lui avait répondu « Je ne peux pas », en donnant comme prétexte une corvée de visite. Dès son entrée dans le petit salon, attenant à la chambre à coucher, où Madame de Chaligny vaquait avant le déjeuner à sa correspondance, Jeanne demeura saisie d'un pressentiment. Sa cousine portait exactement la même toilette que cet autre jour. L'émotion de l'espionne fut si vive que sa voix tremblait pour formuler sa simple demande. Elle était sûre d'avance du « je ne peux pas » de la réponse. Et quand elle l'eut entendue, à peine si elle eut la force de prononcer ces quelques mots d'insistance « Pourquoi? Qu'as-tu donc à faire ?» auquel Valentine opposa une explication plus vague. « Non, vraiment, je ne peux pas. J'ai 2 ou 3 rendez-vous que je ne saurais remettre. » Jeanne n'essaya pas de l'interroger davantage, de peur d'éveiller une méfiance qui eût déjoué le plan conçu dans son esprit pour le moment où elle verrait le joint à une enquête plus active. Ce plan consistait, le jour où elle aurait saisi les signes espérés, à se poster brutalement dans une voiture au rideau baissé, à l'angle du boulevard des Invalides et de la rue de Varennes, et à suivre l'équipage de Madame de Chaligny quand celle-ci sortirait. L'envieuse avait bien pensé, dans sa frénésie de savoir enfin, à employer ce moyen abject, sans attendre le signe, et chaque jour, jusqu'à la réussite. Son bon sens lui avait démontré qu'une pareille opération n'avait de chance d'être efficace que si elle ne se renouvelait pas trop souvent. Un fiacre qui suit un coupé de maître n'est pas remarqué une première fois. À la troisième, à la quatrième, la personne qui est dans le coupé s'aperçoit de la poursuite. Ou bien c'est le cocher, le valet de pied. Mais le jour en question, ayant surpris sa rivale dans une toilette significative pour elle jusqu'à la certitude, comment Jeanne eut-elle hésité? Elle avait quitté Valentine à 11h30. Elle savait que celle-ci déjeunait à 12h15 et qu'elle commandait d'habitude sa voiture pour 2h30. Dès 1h15, elle se tenait au poste d'observation qu'elle s'était fixé, ayant eu le courage, car c'en était un pour une femme de son rang, de passer avec un cocher un de ces pactes qui établissent entre la personne qui l'offre et celle qui l'accepte une si avilissante complicité. « Mais votre cheval aura-t-il la force de suivre 2 chevaux qui iront très vite ?» avait-elle demandé le marché conclu. « Mettez 5 francs de plus, la petite dame !» avait répondu l'homme. « Et ce serait un auto que, dans Paris, s'entend, il ne nous perdrait pas. » Cette familiarité d'un inférieur, au niveau de qui ce dialogue l'abaissait, fit rougir Madame de La Node. Elle ne renonça pas pour si peu à un projet dont elle n'attendait pourtant pas un résultat aussi définitif et aussi facile. Sa crainte que la bête attelée à cette voiture de hasard ne pût pas suivre les juments anglaises de sa cousine se trouva vaine, et la vantardise du cocher n'eut pas lieu d'être mise à l'épreuve, par ce simple fait qu'à 2 heures, Madame de Chaligny sortit en effet de son hôtel, mais à pied. De son fiacre, par l'interstice du rideau de soie bleue élimé et taché, que sa main nerveuse écartait à peine, l'autre la vit qui venait sur le trottoir, lentement, paisiblement, en femme qui profite du beau temps sec pour marcher un peu. Elle ne parut même pas prendre garde à l'anomalie que représentait, dans ce quartier si peu propice aux aventures parisiennes, la silhouette d'un coupé au store fermé, immobile à l'extrémité de la vertueuse rue de Varennes. Car elle traversa le boulevard sans se retourner, gagna le petit jardin des Invalides, qu'elle longea de cette allure toujours indifférente. Madame de la Node, qui avait dit à son cocher de descendre cette même avenue au pas, ne perdait pas un geste de la promeneuse. Déjà sa certitude du matin commençait de l'abandonner. Elles avaient toutes deux une grande tante, une vieille comtesse de nez restin qui demeurait au quai d'Orsay, de l'autre côté de l'esplanade. Valentine allait-elle tout bonnement rendre ses devoirs à cette douairière? Mais non. Au lieu d'obdiquer dans cette direction, elle se dirigeait vers le boulevard de la Tour Maubourg. Elle n'y fut pas plus tôt arrivée qu'elle arrêta, elle aussi, un fiacre qui passait. Le cœur de Jeanne battait à l'étouffer. Dans quelques instants, elle saurait si sa cousine faisait simplement une course dont l'idée lui était revenue en route, ou bien si elle fuyait vers ce rendez-vous caché. Seule explication plausible de son abandon de ses gens l'autre jour et de son mensonge. Valentine avait pris un fiacre dont la caisse, peinte en jaune, permettait la poursuite d'autant plus aisément qu'il avançait au trot lent d'une bête très fatiguée. Il alla le long de ce boulevard de la Tour Maubourg d'abord, puis de l'avenue du Quesne, pour contourner le chevet de Saint-François-Xavier et gagner, un peu au-delà, le long boyau populaire de la rue de Vaugirard, qu'il ne quitta plus jusqu'au Luxembourg. Jeanne, dont la voiture roulait à 20 mètres en arrière, était sûre maintenant qu'elle tenait la véritable piste. Elle vit le fiacre jaune s'engager dans la rue de Médicis, dans la rue Soufflot. Il suivait le mur des vastes cours du lycée Henri IV. Des noms que jamais Madame de la Node n'avait même entendus défilaient sur les plaques d'angle. Rue Clovis, rue de la vieille Estrapade, rue Touin, rue Mouffetard. Encore quelques tours de roue, la bruyante artère de la rue Monge était traversée, et la voiture enfilait cette fin de la rue Lacépède qui débouche en face du jardin des plantes. Elle s'arrêta. Madame de Chaligny en descendit et paya la course avec une monnaie préparée à l'avance. Autre petit signe qu'elle voulait se débarrasser vite de son cocher. Mais ne se rendait-elle pas à la Pitié, dont la façade grise se dressait un peu plus loin à droite? Jeanne, de qui la voiture avait continué et stationnée maintenant près de la grille du jardin, eut un moment l'idée que sa cousine allait passer le seuil de l'hôpital. L'hypothèse d'un mystère de charité qu'elle avait formé, on se souvient, une première fois déjà, presque malgré elle, et rejetée de toute la force de sa haine, était-elle donc la vraie? Non encore. Madame de Chaligny avait simplement attendu sur le seuil que son fiacre partît. À présent, elle remontait à pied le mince trottoir de la rue Lacépède. Elle fit de la sorte 50 pas peut-être, et Jeanne la vit qui sonnait à la porte d'une maison petite à 2 étages. La porte s'ouvrit. La marquise, qui avait paru jusque-là étrangère à tout désir de se cacher, lança cependant autour d'elle le regard circulaire de la femme qui veut être bien sûre qu'elle n'est pas reconnue, et elle disparut derrière le battant refermé. Madame de la Node avait assisté à ce manège. Autant du moins que l'éloignement forcé de son poste d'observation le lui permettait. Avec une joie cruelle, une joie de prise, qui se mélangeait néanmoins à trop d'étonnement pour être complète. Par son expérience personnelle et par les confidences d'hommes qu'elle avait pu recevoir, elle était trop initiée aux conditions habituelles des secrets bonheurs parisiens. Comment n'eût-elle pas été déconcertée jusqu'à la stupeur par le quartier où sa cousine avait ses rendez-vous? La plus élémentaire prudence interdisait un pareil choix, d'autant plus compromettant qu'il était plus excentrique. Descendue de sa voiture elle-même et marchant le long du pauvre trottoir que Madame de Chaligny avait suivi quelques instants auparavant, Jeanne regardait les obscures boutiques de ce commencement du faubourg Saint-Marcel. Ici une blanchisseuse, au linge rare et pauvre, plus loin une échoppe de revendeurs. Là-bas une teinturerie au rabais, ailleurs un étalage de journaux à 5 centimes. Le tassement des bâtisses, sans doute contemporaine de l'époque où Madame de Miramion construisait à côté Sainte-Pélagie, aujourd'hui détruite, l'humidité des allées, les suintements des crépis éraillés, tout dans l'aspect de la vieille rue attestait d'humbles existences pour lesquelles les visites plus ou moins régulières d'une femme jeune, jolie, supérieurement élégante, devaient faire événement. Le caractère même de la maison où Madame de Chaligny venait d'entrer était de nature à provoquer la curiosité et, par suite, l'enquête, avec les conséquences de chantage qui risquaient presque inévitablement d'en découler. C'était un pavillon, isolé entre 2 constructions plus hautes, avec un mur qui le prolongeait d'un côté. Les branches jaunies d'une 12 douzaine de tilleuls assez grands dépassaient la crête et révélaient le luxe d'un petit jardinet. Ces étroites et presque microscopiques enclaves de verdure abondaient encore, voici 25 ans, sur ce versant sud-est de la montagne Sainte-Geneviève. C'étaient les minuscules débris, sauvés par quelque hasard, de ces vastes parcs appartenant à des couvents, que George Sand a décrit avec tant de poésie dans « L'histoire de ma vie ». La communauté des Augustines anglaises, où la romancière fut élevée, était tout auprès. Tout auprès l'immense potager des Dames de la Miséricorde, dont elle célèbre les raisins dorés et les œillets panachés. Et puis, ces pavillons à jardiner ont disparu les uns après les autres. Celui-ci, à cette extrémité de la rue Lacépède, n'avait pas dû être plus remarquable autrefois que ceux de la rue Rollin et de la rue des Boulangers. Aujourd'hui, sa survivance était une bizarrerie et qui nécessairement attirait l'attention. Madame de La Node passa et repassa plusieurs fois sur le trottoir opposé pour considérer l'endroit avec une attention qui ne fit qu'accroître sa surprise. Le pavillon avait 2 fenêtres au rez-de-chaussée, à côté de la porte, et 3 à chacun des 2 étages au-dessus. Les croisées d'en bas étaient garnies de verre dépoli et protégées par des ferrures. Celles du premier et du second n'offraient aucune autre particularité que cette légère différence de couleur entre les vitres qui atteste la très grande vétusté de certains carreaux. Des rideaux blancs à fleurs tombaient par derrière. D'autres rideaux d'étoffe les doublaient, relevés par des embrases. On voyait seulement l'envers de la satinette crème et la frange, rouge ou bleue suivant les pièces. Les passants, étrangers au quartier, s'il en était qui s'arrêtassent devant cette façade, imaginez sans doute un de ces doctes intérieurs bourgeois, celui d'un savant ou d'un professeur, tel que le voisinage du muséum, de 2 grands lycées et de la Sorbonne, les multiplie entre le Luxembourg et le Jardin des Plantes. Mais qu'un pareil logis servit d'abri aux amours d'une authentique marquise, venue ici d'un des plus nobles hôtels du Faubourg Saint-Germain, c'était une hypothèse extraordinaire jusqu'à l'invraisemblance. Il fallait à Jeanne de La Node presque un effort pour se persuader qu'elle était bien là, qu'elle avait bien vu Valentine de Chaligny poser sa main sur cette poignée de fer qui pendait à une chaîne à la vieille mode, sonner, pousser cette porte au milieu de laquelle une ligne de cuivre marquait l'ouverture d'une boîte aux lettres, destiné à recevoir le courrier sans que le facteur entrât, franchir ce seuil exhaussé de 3 marches au-dessus du trottoir. En ce moment, Elle était dans une de ces chambres closes.
Auprès de qui? Quel était l'homme de leur monde, arrivé dans cette maison quelques instants avant elle?
Il le fallait, puisqu'on était venu lui ouvrir.
Ou bien, cette maison abritait-elle quelque aventure plus romanesque encore?
Valentine avait-elle, par suite de circonstances qu'aucune personne de la société ne soupçonnait, formé une liaison hors de sa caste? Retrouvait-elle ici un jeune homme qui n'allait jamais chez elle?
Qu'il s'agit d'une intrigue d'amour, en effet, la chose n'était plus douteuse.
Rien au monde ne s'opposait à ce qu'elle vînt devant cette porte avec sa voiture, dans cette rue pauvre mais parfaitement décente, si elle y venait pour un motif avouable. Et le caractère, sinon riche, du moins très convenable de la maison, excluait aussi l'idée d'une visite de charité.
Valentine était auprès d'un amant.
Quel amant!
Une telle véhémence de curiosité possédait Jeanne, qu'oubliant toute prudence, elle se tenait immobile sur ce trottoir, la tête levée, au risque d'être aperçue de l'intérieur, si quelqu'un s'avisait de regarder dans la rue à travers les rideaux. Elle aurait peut-être, dans sa fièvre d'en savoir davantage, sonné elle-même à la porte mystérieuse, offert de l'argent aux boutiquiers voisins pour les faire parler, si un événement nouveau n'avait soudain donné une réponse à la question qu'elle se posait, et se reposait. L'arrêt d'une voiture devant cette maison, dont elle dévorait des yeux la face énigmatique et muette. C'était un coupé de remise, d'où s'élança un homme encore jeune, qui se reprochait évidemment d'arriver en retard, car, ayant tiré sur la chaîne, et durant le temps que l'on mit à lui ouvrir, il consulta sa montre avec un hochement de tête. Il se précipita, aussitôt le battant poussé, pas assez vite cependant pour que Madame de la Node n'aperçût des tableaux et des tentures, un escalier avec un tapis, mais pas même la silhouette de la personne arrivée à l'appel de la sonnette. À peine si elle avait pu distinguer les traits de l'homme. Un visage intelligent et maigre, tout glabre, des cheveux encore très noirs, quoique ce masque portât 40 ans, des yeux bruns qui luisaient sur un teint gris avec un éclat singulier. Ils avaient croisé les yeux de Jeanne, et sous ce regard, celle-ci s'était sentie rougir. Pour n'avoir pas l'air d'espionner, elle avait fait quelques pas, comme quelqu'un qui n'est pas sûr de son chemin. À quelle classe sociale pouvait appartenir cet homme, dont elle ne doutait pas qu'il ne vînt rejoindre Valentine de Chaligny? Il lui avait semblé très bien mis, et cependant elle n'avait pas eu la sensation d'un personnage de son monde. Elle avait marché dans la direction de la rue Monge, avec l'idée que l'inconnu l'aurait remarqué, et ouvrirait peut-être la croisée pour vérifier si elle était encore là. Elle tourna la tête, et constata que les fenêtres de la petite maison restaient closes. La voiture qui avait amené l'homme ne s'en allait pas. La tentation la saisit de ne pas s'en aller elle non plus, et d'attendre que Valentine ou l'inconnu reparussent, peut-être tous les deux. Mais qu'apprendrait-elle de plus? Et pourquoi s'exposer à les avertir? Elle tenait la preuve tant désirée. Elle n'avait plus maintenant qu'à chercher quel usage en faire. Et déjà elle était remontée dans un autre fiacre, et elle retournait vers le Paris aristocratique, leur Paris à sa cousine et à elle. L'image de l'étrange endroit où cette cousine avait caché le roman de sa vie lui aurait paru un songe, si la mauvaise voix intérieure à laquelle, dans son premier sursaut de conscience, elle avait répondu « Je ne ferai pas cela », n'avait recommencé à lui prononcer des paroles trop nettes, trop précises, trop mêlées aux réalités quotidiennes de sa vie et aux intérêts les plus positifs de son avenir. Elle avait le moyen de perdre Valentine auprès de Norbert. Ne l'utiliserait-elle pas? 5. La lettre anonyme. Il convient de le reconnaître. À l'honneur ou à la charge de la nature humaine, cela dépend du point de vue. Les très mauvaises actions ne sont guère commises tout de go et comme telles.
Nos basses passions excellent à nous déguiser leur perversité native sous les plus spécieux prétextes et quelquefois les plus justes d'apparence. Il est rare que nous leur cédions en nous en rendant bien compte. Il tient toute une psychologie du crime dans le mot cynique de cet assassin qui racontait sa lutte avec une vieille femme, sa victime. « Elle se défendait, la canaille !» Quand un homme en hait un autre pour des motifs aussi vils que l'envie, par exemple, il arrive presque toujours à voir son ennemi tel que sa haine a besoin qu'il soit. Il se permet contre lui des infamies, mais il les perçoit comme d'équitables représailles. Cette illusion, qui n'est pourtant qu'à demi volontaire, explique seule que certains méfaits d'un ordre abominable puissent être exécutés par certains êtres, lesquels, au demeurant, ne sont pas des monstres. Madame de La Node, puisqu'il s'agit d'elle, n'en était pas un. La preuve en est que, de nouveau, en rentrant chez elle, après sa course de policière improvisée, elle avait répondu à la voix tentatrice un « non » plus énergique que le premier. Dans le temps qu'elle avait mis à franchir la distance qui sépare la rue Lacépède de la rue Barbée de Jouy, les possibilités de reconstruire sa propre existence sur les débris du ménage Chaligny, coupable chimère à laquelle elle s'abandonnait en idée depuis ses 13 jours d'attente, s'était de nouveau offerte à son esprit. Par un détour singulier de sa sensibilité, elle avait, maintenant qu'elle savait tout, trouver en elle pour les repousser et, avec elle, l'acte dénonciateur qu'elles impliquaient. Plus de force qu'au moment où elle doutait encore. C'est qu'une intime, une passionnée satisfaction d'amour-propre l'inondait tout entière et, pour une heure, endormait la cuisson de la vieille blessure. Sa force de haine, le principe moteur de son âme durant tant d'années, était comme paralysée par l'orgueil de savoir, cette fois d'une façon qu'elle jugeait décisive, la faute de sa cousine. Cette supériorité de la vertu conjugale que toutes les femmes reconnaissent au fond de leur conscience, en la dédaignant des lèvres, Valentine de Chaligny ne l'avait plus sur Jeanne. Jeanne, au contraire, pouvait avoir sur l'autre une supériorité en se montrant généreuse. « Je me tairai, et nous serons quittes. » Cette phrase qu'elle se répétait à haute voix, « Nous serons quittes », résumait assez bien le paradoxal travail de sa pensée démoralisée par sa vie. Elle mettait d'un côté le tort qu'elle avait fait à sa cousine en lui prenant son mari, et elle trouvait le plateau de la balance trop léger comparé à l'autre, où elle pesait les avantages qu'elle sacrifiait, en ne se rendant pas coupable d'une infamie.